Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à l'avoir à lire. Aujourd'hui, rencontre avec Aurélie Villemay qui est l'autrice d'un superbe album qui nous emmène du côté du Canada dans un voyage rempli de mystères et d'imaginaire pour une pilote qui a assuré la liaison aéropostale en décembre 1947 et à qui il va arriver bon nombre d'aventures. Elle est au micro de Fred Michel depuis le centre Wallonie-Bruxelles à Paris.
Bonjour Aurélie Villemay, merci d'être avec nous sur Dans ma bulle depuis le centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Aujourd'hui, on va parler de votre livre Les épinettes noires. Alors Les épinettes noires, je vais essayer de faire un bref résumé. 18 décembre 1947, Violette, pilote assurant la liaison aéropostale entre l'Ontario et le Nunavik dans le Grand Nord canadien, s'apprête à partir pour son dernier voyage de la saison. On va pas tout dévoiler, tout divulgâcher parce qu'il y a quand même un certain suspense dedans. On n'ira pas jusqu'à la fin, mais moi d'abord je voudrais savoir comment est né ce livre et où êtes-vous allé puiser cette histoire ?
Alors, il est né quand je vivais au Canada en fait. Donc j'ai vécu à Montréal pendant près d'un an, un peu moins d'un an et demi. Et donc quand j'étais sur place, j'ai été rencontrer une communauté qui n'était pas la communauté du tout inuite, c'était la communauté Atikamekw, et où j'ai rencontré cette jeune femme qui s'appelle Madeleine Basile et qui s'occupait de, était coordinatrice d'information pour sa communauté, qui donc informait les personnes extérieures de son histoire, des mythes, tout ça, de tout ce qui faisait l'histoire de son peuple. Et donc j'ai été captivée, ça, c'était vraiment, en plus tout était dans une ambiance un peu très magique, avec de la souche brûlée dans le coin de la pièce. Enfin c'était vraiment, en tout cas ça m'a donné envie de travailler sur une communauté autochtone du Canada. C'est d'abord sur ça que je suis partie, et puis au fur et à mesure, en cherchant dans les archives et en cherchant des livres qui avaient été écrits par des autochtones, j'ai trouvé beaucoup plus de choses, en tout cas sur la période que je voulais illustrer, qui étaient écrits par des auteurs Inuk. Et donc, ce qui fait que je suis partie sur le peuple Inuit.
Et vous connaissiez déjà cette civilisation avant ? Vous intéressiez avant cette civilisation ?
J'ai toujours été très intéressée par les civilisations du Nord. Donc oui, je connaissais déjà les Inuits. Mais après, je ne les connaissais pas en profondeur, on va dire. Et donc, c'est vraiment par les écrits et les archives, en tout cas sur cette civilisation-là, que je me suis intéressée. Je me suis vraiment plongée pleinement dedans.
Et c'était également dans le cadre d'une résidence, je crois, non ?
Oui.
Enfin, ça, comme on est au centre Wallonie-Bruxelles.
Oui, c'est ça. La Wallonie-Bruxelles est partout. oui, j'avais été accueillie pour une résidence à Québec. Alors l'année, je ne me souviens plus précisément, mais je pense que c'était en 2022, mais je ne sais pas certain. Donc j'étais accueillie pendant 2 mois, et donc c'était pour à la fois accéder aux archives qui étaient situées dans la ville de Québec sur justement les communautés du nord du Canada, et j'avais prévu un voyage d'une semaine dans la ville de Kujawak. Mais seulement à cause du Covid à l'époque, mon voyage a dû être annulé parce qu'il y avait des personnes qui avaient attrapé le Covid dans la communauté et ils ont décidé de fermer tous les aéroports pour éviter qu'il y ait des problèmes avec la communauté, tout simplement. Il fallait protéger la communauté vu qu'ils ne sont pas énormément. Et donc, j'ai dû annuler mon voyage pour ça. Donc, j'espère pouvoir y retourner un jour, mais pendant ma résidence.
Parce qu'à aucun moment, vous avez pu vous y rendre, c'est ça ?
Non, c'est ça. Mais après, ça coûte fort cher d'aller là-bas. Donc, il faut déjà aller jusqu'au Canada. Et puis après, il faut compter 2000 euros pour une semaine. Donc,
c'est un budget.
C'est un budget. Donc voilà, donc j'espère y retourner un jour, mais voilà, peut-être.
Alors justement, vous parliez des archives. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces archives ? C'était quoi, des photos, des
écrits ? Alors, il y avait plein de choses. Donc j'avais réservé sur Internet toutes mes caisses
à des caisses, carrément ?
Ah oui, quand on arrive, il y a plein de caisses empilées. Il faut chercher là-dedans. Donc il y avait des photos, bien évidemment. Des photos qui s'étalaient entre le début du 20e jusque la fin du 20e. Et puis, il y avait des textes, mais c'était plus des textes de loi, des textes qui faisaient référence au changement de nom des villages dans le nord du Canada, l'occupation à cette époque-là militaire. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai placé le récit 1947, à la suite de... Donc avant, il y avait une occupation militaire que je cite dans le livre, qui est Fort Chimo.
Dans un contexte particulier.
Oui, c'est ça. Et donc, voilà, c'est tout ça que j'ai trouvé sur place dans les archives. Et c'est vraiment ça qui m'a captivée et que je me suis dit, c'est vraiment sur ça que je veux faire.
Alors après, pour construire votre scénario, comment vous avez procédé? Parce que bon, il y a tout ce matériau là, mais comment on fait après?
Alors, il faut savoir que je travaille très différemment de livre en livre. Donc pour Robur, comme il n'y a pas de texte, c'était un peu très différent comme façon de travailler. Ici, pour Épinette, j'avais travaillé donc avec toutes les informations. J'avais fait un scénario, mais on va dire vraiment presque un synopsis, vraiment pour tracer juste
en quelques pages
ce que je voulais raconter. Et puis c'est vraiment par la suite que je suis venue incorporer des dialogues. Mais j'ai travaillé vraiment en plusieurs étapes. Tandis que par exemple, pour mon prochain livre, je sais déjà que je ne vais pas travailler du tout comme ça parce qu'il y a plus de textes. Et donc il faut vraiment travailler en une fois le scénario pour qu'il y ait toutes les idées, tous les dialogues et que ce soit plus facile de travailler par la suite. Donc ici, il y avait moins de textes, donc c'est pour ça que j'ai travaillé différemment.
Et vous avez construit tout de même un storyboard ?
Pour Épinette, pas vraiment. J'y suis pas vraiment au fur et à mesure, je construisais mes planches et je me disais est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai envie de travailler plus avec un storyboard plus complet dès le début et je pense que ça évolue de récit en récit.
Donc là, vous avez construit au jour le jour, page
ouais,
par page.
C'est ça.
Et c'est un exercice contraignant ou c'était plutôt facile pour vous?
En fait, j'ai souvent en tête déjà les idées que... Enfin, j'ai presque les planches en tête, en fait. Donc
ça se fait assez facilement.
Je sais déjà ce que je veux illustrer. Très vite, je sais ce que je veux faire. C'est juste qu'en matière on perd un peu de temps dans le sens qu'il faut préparer la planche, puis après, il faut la dessiner. Tandis que si on prépare tout en une fois, après, on est juste dans la mise en couleur et c'est quand même un peu plus facile au jour le jour de gérer son emploi du temps, comme ça.
Alors, les décors et les paysages sont très importants dans votre livre, déjà dans Rorbuer, oui. Où la nature était aussi omniprésente. Alors, comment on fait pour retranscrire cette nature quand on n'est pas sur place?
Alors... Déjà, les archives ont beaucoup aidé. Et j'avais rencontré un auteur qui était allé sur place, qui avait écrit un livre qui s'appelait Nunavik aux éditions Popo. Et donc, qui m'avait envoyé ses propres photos aussi, qu'il avait pris sur place pendant son voyage. Et j'avais pris un café avec lui, où il m'avait aussi parlé, parce que c'est important aussi d'avoir son ressenti sur comment c'était sur place, comment sont les gens, et tout ce que j'avais pas pu faire, en fait. Et aussi, j'avais aussi un échange avec une personne sur place. Donc, dans le cadre de mon voyage, à ce moment-là, j'avais contact avec cette personne. Et puis, par la suite, j'avais aussi demandé d'envoyer des photos au jour le jour de ce qu'il faisait, la chasse et ses balades en chien de traîneau. Mais ça, c'est plus pour les touristes, mais ils le font quand même. Donc, voilà, c'est tout ça qui m'a permis d'un peu m'imprégner... De l'ambiance sur place, mais c'est vrai que j'aurais aimé vraiment pouvoir être sur place pour avoir un autre ressenti peut-être.
Bah c'est réussi en tout cas parce qu'on s'y croirait, donc il y a aussi une part d'imagination dans vos dessins, dans la construction de votre histoire.
Oui, après l'imagination, je pense que pour être auteur de BD, il faut l'avoir constamment.
Où est-ce que vous allez la chercher cette imagination? Dans vos lectures, dans vos rencontres?
Je pense que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, je veux dire, même étant petite, alors que j'aimais pas du tout lire, donc c'est pas vraiment dans la lecture, je veux dire, de la bande dessinée, déjà, je pense que c'est à la fin de mes études que je me suis dit que je voulais en faire.
Ah, c'est récent, alors.
Oui, oui, parce que j'étais partie totalement dans... Enfin, j'étais en illustration, hein, mais l'idée, c'était de faire de l'illustration jeunesse, et puis au moment de choisir mon master, je me suis dit, il y a ce master illustration bande dessinée, peut-être, mais je ne me vois pas faire de la bande dessinée. Et puis, pour finir, je suis devenue autrice de bande dessinée. Donc, je pense que l'imagination et tout ça m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui, mais je pense pas, je pense qu'elle a toujours été là, tout simplement.
D'accord, donc elle est en vous, elle est ancrée en vous.
C'est ça.
Ce village et cette communauté, est-ce qu'ils existent vraiment?
Oui, tout à fait. Enfin, il y a juste le personnage de vie... Voilà, le personnage de Violette n'existe pas. Elle a été inspirée par des aviatrices du début du siècle dernier, mais le peuple existe, la communauté était à peu près comme je la décris dans mon livre. Donc je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses ancrées dans la réalité, et puis il y a bien sûr des personnages imaginaires comme dans beaucoup de récits. Voilà.
On va s'arrêter un peu sur le personnage justement de Violette, parce que c'est l'axe principal, c'est le fil rouge de l'histoire. C'est quelqu'un qui est vraiment déterminé dans tout ce qu'elle fait.
Oui, c'est ça. Bah, après, je pense que comme dans tous les personnages que je dessine dans mes bandes dessinées, dans mes illustrations, je pense que c'est peut-être inspiré un peu de moi. Comme,
donc il y a un peu d'Aurélie Wilmé dans Violette. Oui.
C'est ça. Et donc il y a cette, comme tu dis, cette persistance, cette volonté de réaliser ses rêves, de continuer à travailler dans ce qu'on aime. Et le personnage de Violette, dans ce cas-ci, c'était être aviatrice. Et même si son couple, pendant un instant, ne lui permet pas de mettre son rêve en pause, en fait, elle finit quand même par retrouver et à se battre pour ce qu'elle veut.
On peut quand même dire que Violette est victime d'un accident. On n'ira pas plus loin.
Oui.
Et ce qui est important aussi dans ce livre, c'est de montrer la solidarité.
Oui, oui, oui. Après, je pense que c'était aussi marqué le fait que c'est difficile pour une personne extérieure d'arriver dans ce type de communauté, que ce soit il y a un siècle ou même maintenant, et donc encore plus pour une femme. L'idée, c'était de montrer que c'était aussi possible d'imaginer une relation qui soit plus que simplement des connaissances dans la vie de tous les jours, plus une amitié forte qui puisse se placer entre une femme blanche dans cette époque et des gens de la communauté.
Mais à l'opposé, il est aussi question de racisme.
Oui, clairement.
De rejet.
De rejet, oui, parce que c'était pleinement... je veux dire, à ce moment-là, il y avait un racisme assez fort entre les peuples autochtones et puis le peuple blanc qui arrivait sur place et qui, bien évidemment, faisait de l'appropriation du territoire, de tout ce qu'il y avait sur place, même si c'est pas énormément de choses, et qui donc avait en même temps cette dénigration envers le peuple autochtone. Et c'est ça aussi que je voulais marquer. C'est quelque chose qui est toujours présent aujourd'hui, je pense, hein, même si il y a vraiment une évolution positive dans ce cadre-ci. Mais c'est ça aussi que je voulais marquer. C'était ce racisme du début du siècle dernier qui était fort marqué dans ces communautés.
Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que peut-être que maintenant, le Canada et le Québec plus particulièrement aussi, s'intéressent plus aux peuples autochtones que dans les années 40.
Oui, oui, c'est sûr. Maintenant, il y a vraiment cette volonté de mise en avant des artistes, du peuple autochtone, de le mettre en avant et de montrer qu'il y a une évolution. Je pense que c'est ça principalement, c'est que c'est montrer que le peuple autochtone maintenant a une place dans le Canada, tout simplement, parce qu'à l'époque, c'était plus, ils étaient mis sur le côté et on essayait même
De les cacher.
De les cacher, de, j'ai envie de dire, de les... je trouve pas le mot.
De les rendre invisibles.
De les rendre invisibles, oui, on va dire ça. Et donc, aujourd'hui, je trouve ça intéressant que... il y a ce changement positif où ils sont mis en avant. Mais après, c'était assez traumatisant pour ces peuples à l'époque, avec les pensionnats indiens, les déportations aussi. Aujourd'hui, ils en parlent encore et c'est des choses... il y a eu encore récemment des articles là-dessus sur les pensionnats indiens, le fait que beaucoup de jeunes enfants sont morts dans ces pensionnats. Et voilà, ça a marqué tout ce début, toute cette fin du siècle pour le peuple autochtone, quelle que soit la communauté, je veux dire.
Oui, oui, exactement. Alors, on va s'arrêter aussi sur les dessins, parce que vous alternez à la fois de grands aplats, des alternances de couleurs, de sensations, de reflets. Quelle technique vous utilisez ?
Alors, ça va être du marqueur et du crayon de couleur,
Donc simplement. En couleur directe ?
En couleur directe, oui.
Quand est-ce que vous avez vraiment défini votre style ?
Je pense que ça s'est défini en master, quand j'ai décidé de faire de la bande dessinée. j'étais en cours avec Dominique Goblet. Et donc, il fallait définir son style, il fallait définir sa technique. Et j'avais toujours été attirée par le marqueur et le crayon de couleur. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les assembler ? Au début, c'était... difficile parce que...
C'était à tâtons, non ?
Ouais, c'était à tâtons parce que c'est deux techniques assez opposées. Enfin, ça dépend comment on les utilise, mais je voulais, par le crayon, avoir quelque chose de, on va dire, de plus sensible et en même temps, par le marqueur, avoir quelque chose d'un peu plus brut. Et donc, il y avait dans chacune quelque chose qui m'intéressait, mais je ne trouvais pas encore comment les assembler. Mais c'est vers la fin de l'année, donc à la fin du projet de Rorvur que j'avais commencé en master, que j'ai trouvé les bonnes façons de les utiliser tous les deux ensemble.
Mais on le voit bien là, par exemple, sur une des pages.
Oui.
C'est pas seulement un aplat, il y a quand même de la matière dedans.
Oui, oui. Le marqueur, il y a vraiment de la matière. Et c'est ça, en fait, que j'aime bien garder, parce qu'il y a certains marqueurs qui ont moins de matière. Et c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Il y en a certains qui ont plus de matière aussi, ça c'est comme les marqueurs pour enfants qu'on avait quand on était petit. Mais donc celui-là est en justement les marqueurs, c'est des Copic Chao, et je trouve qu'ils fonctionnaient vraiment assez bien avec.
Là aussi on voit, vous pouvez jouer sur les dégradés.
C'est ça, ouais. Et ça donne une certaine, ça donne de la vie aussi au dessin, de la matière, même du volume, je trouve, sur certaines images. Et en même temps, sur certains, il est plus utilisé comme fond, comme sur les pages qui sont unies. J'appelle ça les pages de l'ours.
Pages de l'ours.
Hein, ouais.
Moi, je les aime beaucoup, ces pages-là, avec tous ces traits-là. Comment vous avez eu cette idée-là ?
Alors, mon idée au départ, je voulais avoir... j'aime bien dans mes livres avoir... ce moment dans le récit où j'aime bien le perdre le lecteur, et j'avais envie qu'il y ait une double narration. Et donc, par la double narration, je voulais aussi qu'il y ait une...
C'est une contre-histoire, en fait.
Oui, c'est ça, c'est une contre-histoire, presque. Et donc, avoir quelque chose qui soit dans un autre style, presque, et en même temps que ça fonctionne avec le reste du récit. Hein, mais donc, il y a eu beaucoup de recherches pour arriver à ça et que ça fonctionne niveau couleur avec le reste, parce qu'on est... dans une gamme qui se rapproche du reste du livre, mais en même temps...
Là, c'est uniquement du blanc et du bleu.
C'est ça. Donc voilà, c'était ça l'idée de départ. C'était perdre le lecteur et en même temps faire quelque chose d'un peu créatif.
Mais ça crée une respiration aussi.
Oui,
ça
oui,
donne du rythme
aussi
à l'histoire.
Oui, clairement. Puis aussi, c'est une autre rythmique au niveau, par exemple, des flocons de neige qui est très différente à la fois dans les pages où il y a plein de couleurs et à la fois dans ces pages-là.
Là, il y en a une autre, voilà, où on voit notre ami l'ours.
Oui, notre ami l'ours. Ouais.
On va s'arrêter aussi sur le titre. Alors, épinette noire, expliquez-nous.
Alors, épinette noire. Il faut savoir que donc, je suis une personne très stressée. Et donc, j'ai toujours eu ce...
C'est très utile, l'épinette noire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'adore me balader en forêt. Et le parfum des pins, des sapins, des épinettes noires a toujours eu tendance à me calmer.
Ça vous rassure.
Donc, ça me rassure. Et donc, j'avais envie... et le Canada... Voilà, quand je suis partie au Canada, j'étais beaucoup plus stressée que maintenant. Et le Canada avait permis de me recentrer, de me calmer dans ces paysages, dans ces très contemplatifs et tout ça. Et donc, le lien avec le Canada, épinette noire, était assez évident. Et je voulais que... Donc, épinette noire, c'est un arbre qui se retrouve très fort dans le nord du Canada, donc au Nunavik. Et donc, j'avais envie de le mettre en avant d'une certaine façon et de faire ce lien avec à la fois les mythes, le côté magique, parce qu'ils évoquent aussi, ils utilisent beaucoup l'épinette noire, que ce soit simplement dans leur vie de tous les jours ou même relié à leur mythe, tout simplement, et leur conte folklorique. Et donc, je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant, tout simplement.
Alors, dans Rorbuer, on était dans une bande dessinée complètement muette.
Oui.
Et là aussi, il y a beaucoup de silence également.
Oui, j'adore les silences. Je pense que je suis une personne qui ne dit pas grand-chose très souvent et donc qui aime faire passer des émotions et même des sensations, tout simplement juste sans texte. Et donc, je pense que c'est important pour moi de mettre ça dans mes BD parce que... C'est comme ça que je fonctionne au jour le jour et j'ai envie de transmettre ça aussi aux gens qui lisent mon travail.
Donc vous allez refaire peut-être d'autres bandes dessinées muettes ?
Oui.
Oui.
Oui. Mon idée, donc la prochaine sera avec plus de texte, hein, mais celle d'après, je comptais faire quelque chose plus dans l'âme de Rorbuer parce que tout simplement, j'avais beaucoup aimé faire Rorbuer et que j'aime travailler sur le silence. Et donc oui, l'idée, c'est de faire une autre bande dessinée comme Rorbuer.
Alors, il y a quelque chose aussi d'important qui était déjà présent dans Rohrbuer. Décidément, c'est un peu la suite de Rohrbuer. Le rapport au mythe, vous l'avez dit, mais aussi la frontière entre le rêve et la réalité. Là, on le voit bien aussi dans votre livre. On va pas non plus tout dévoiler. Mais Violette, donc, elle est victime, je l'ai dit, d'un accident dans son avion. Elle est coincée. Et là, pour moi, c'est vraiment des passages magnifiques, fantastiques au sens de rêve, d'imagination. Parce que elle est perdue, et même nous, on est perdu en tant que lecteur et lectrice. On ne sait pas si c'est du rêve, de la réalité, et ça, vous avez vraiment réussi à le matérialiser.
Oui, mais c'était ça l'idée. J'aime vraiment, parce que dans Rohrbuer, il y avait aussi un peu ce truc où on se demandait un peu, mais plus influencé par le fait qu'il n'y avait pas de texte. Mais j'aime bien perdre le lecteur, comme j'ai déjà dit auparavant. J'aime bien me dire que juste par l'image, il doit essayer de se retrouver. Il doit être perdu un peu comme le personnage principal. Et
quitte à revenir sur ses pas,
quitte
sur sa lecture.
Sur cette part, c'est ça. Et je pense que le personnage doit vivre un peu la même chose. Il revient en arrière, elle se dit « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et c'est vraiment ça. C'était mettre le personnage presque en difficulté comme Violette.
Alors là, je suis tombé sur deux pages magnifiques que moi j'adore. Ce sont des aurores boréales, c'est ça.
Ouais.
Voilà. Et alors ça, comment vous le, ces pages, comment vous les avez construites? Sur quoi vous êtes basé? Parce que c'est vraiment magnifique. Il y a des arbres en fond, le bleu qui éclate, c'est splendide.
Alors bah c'est sur base de photos principalement, ouais. Hein, malheureusement. J'aimerais bien en voir en vrai, hein, mais je m'étais déjà beaucoup entraînée avec Rohrbuer pour les aurores boréales.
Oui.
Donc même si c'est dans des différentes teintes de couleurs, je veux dire, je commence un peu à les maîtriser
ouais.
Maintenant. Mais c'est principalement sur base de photos, oui.
Il y a beaucoup de forêts aussi.
Oui.
Comme d'ailleurs dans Rohrbuer, décidément. On en revient toujours à Rohrbuer. Et donc la forêt, c'est quelque chose d'important aussi pour vous.
Oui, oui, très fort. Comme j'ai dit, c'est un endroit où je me sens relax,
pourtant,
déstressé.
Ça peut être inquiétant, la forêt aussi.
Oui, oui, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens particulièrement à l'aise en forêt. Je pense que c'est l'odeur, à n'importe quelle période, hein, que ce soit au début de l'automne, avec des odeurs un peu de feuilles mortes. Enfin, c'est vraiment tout est. En ce moment, comme je vis au Danemark, j'ai une forêt qui est juste à côté de chez moi, enfin, où je vais courir de temps en temps. En ce moment, c'est la saison de l'ail des ours. Et donc, ça sent, il y en a partout dans la forêt, et ça sent, c'est un parfum fabuleux.
ça fait envie.
Oui.
On va s'arrêter aussi sur le livre, l'objet livre, parce qu'il est magnifique. Mm-hmm. Comment vous avez travaillé avec Super Loto?
Alors, j'avais déjà une idée très très précise de ce que je voulais pour ce livre-ci. Donc j'avais déjà dit dès le départ, quand j'ai envoyé... Donc,
je veux ça.
Je veux ça. Et donc après, il y a eu une négociation parce que eux voulaient autre chose, moi je voulais ça. Et pour finir, j'ai gagné. Mais je voulais vraiment donc l'aspect un peu... Allez, avec la toile, avec l'écriture sur le côté, qui pas en doré, je voulais jaune au départ, mais le doré donne vraiment, vraiment, vraiment bien. Et je voulais aussi que la couverture reflète ce qu'il y avait à l'intérieur. Et comme je travaille beaucoup sur les paysages enneigés à l'intérieur, ça semblait être important que ce soit ainsi. Et puis la couverture cartonnée, parce que je voulais un livre qui soit... on va dire facile à transporter et qui s'abîme pas trop dans le trajet. Donc, pour moi, c'était vraiment important que l'objet livre ressemble à ça. Et puis, la taille aussi, qui est beaucoup plus grande que Rohrbuer.
Exactement. Qui Rohrbuer est ressorti dans la même taille, d'ailleurs, récemment.
Ouais, c'est ça. Donc, dans la même taille, la même finition. Et donc, voilà, c'est...
Et cette couverture, est-ce que vous avez fait plusieurs essais avant de finaliser celle-ci?
En
gros,
non.
Est-ce que vous êtes pris la tête dessus ou pas?
Non, pas vraiment. J'avais une idée précise de ce que je voulais. Après, j'ai fait 2-3 croquis hein, quand même. Hein. Bon, bah, mais je veux dire, au dessin final, j'en ai fait un seul qui est d'ailleurs toujours... qui a été exposé à Paris le mois dernier et donc qui est au format A2. Et donc voilà, je l'ai fait directement. Je savais ce que je voulais.
Alors, il est aussi beaucoup question de voyage. Vous êtes une passionnée de voyage?
Ah oui, ouais. Surtout dans le Nord.
Comme par hasard.
Voilà. J'aime pas trop la chaleur et le soleil, donc je vais plutôt dans le nord, là où il fait froid. Mais oui, d'ailleurs, je vais pour la première fois aller dans le décor de Raubuur, c'est-à-dire aux îles Lofoten cet été.
Ah oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'êtes jamais allé sur les lieux de Raubuur.
Non, je ne suis jamais allée sur les lieux de Raubuur, donc première fois cet été. Qui sait, peut-être dans 3 ans, j'irai sur les lieux d'Épinette Noire.
Vous partez combien de temps?
Je pars 2 semaines.
Oui, d'accord. Peut-être que vous allez ramener encore une autre histoire.
Oui, peut-être. Mais le Raubuur 2 sera pas en Norvège.
On va terminer avec un autre livre qui vient de sortir chez Côte Édition, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Que vous avez dessiné et l'autrice est Nathalie Skorvornek, c'est ça?
Skorvornek, oui, voilà, je pense que c'est ça.
J'étais sûr que j'allais faire le mauvais exercice. Donc ça s'appelle Chienne de guerre. Alors racontez-nous.
Alors, c'est l'histoire d'un photographe ukrainien qui est réel et qui a disparu dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et donc le livre part de cette idée-là et puis va placer le récit de ce photographe de guerre qui fait des photographies en Ukraine et qui va rencontrer dans le cadre de son voyage photographique un chien avec lequel il va se lier d'amitié. Et donc ça va être à la fois mettre en avant ce paysage de guerre, ce paysage de désolation, et en même temps cette amitié qui se forme. Donc c'est un récit plein d'émotions.
C'est très émouvant.
Oui. Ouais. Donc voilà, donc c'était pour moi en tant que juste illustratrice, c'était difficile au départ de mettre en image quelque chose qui a un rapport avec la guerre, en fait. Même si on a ce rapport entre un homme et un chien qui est assez, on va dire, facile à illustrer, mais il y avait cette difficulté avec la bichromie. Donc l'idée, c'est que les livres qui sont dans cette édition Combat doivent être réalisés uniquement en bichromie. Donc le problème, c'est que voilà, il n'y a pas 20 000 solutions en bichromie. Donc, tout ce qui était rouge-orangé, je trouvais ça tellement fort au niveau image que ce n'était pas du tout ça que je voulais rendre. Donc, on était, donc je suis partie dans mes bleus-jaunes, un peu comme Épinette. Et donc, ça fonctionne assez bien, je trouve, parce que ce n'est pas trop froid, ça reste chaleureux et en même temps, il n'y a pas ce... Enfin, cette violence, parce que je pense que le livre est déjà violent en soi.
Exactement,
juste par,
ça vient contrebalancer un petit peu, oui. Et surtout que vous mettez beaucoup l'accent sur l'être humain et l'animal.
Oui, c'est ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai assez facile à faire, vu que je l'ai même fait dans Épinette Noire. Donc, passer de Épinette Noire à ça était assez évident, en tout cas ça me correspond assez bien.
Un autre type d'exercice?
Oui, c'est un autre type d'exercice. Là, c'est plus en tant qu'illustratrice, donc c'est vraiment des images seules qui viennent accompagner le texte.
Là, on est venu vous chercher.
Oui, on est venu me chercher. Donc, je ne connaissais pas du tout Côte Édition au départ. Enfin, je les connaissais de nom, mais je veux dire pas personnellement. Et on est venu me chercher parce que l'autrice et l'éditrice aimaient beaucoup mon travail. Donc, avaient vu Raubuur et s'étaient dit que je pouvais tout à fait illustrer ce type de livre. Et ça a été le cas et je suis contente qu'elle me l'ait demandé. Et j'ai hâte de faire d'autres livres avec Côte Édition, mais donc plus en littérature jeunesse dans ce cas-ci.
Vous avez évoqué rapidement tout à l'heure que vous travaillez sur un nouveau livre. Est-ce que vous pouvez déjà nous dévoiler la thématique?
Alors, ce ne sera pas du tout... c'est très, très différent.
Ça sera dans le Nord ou pas?
Non. Alors, c'est une biographie sur une photographe américaine du siècle dernier.
D'accord. Et vous avez déjà bien avancé?
Oui. Le scénario est fini.
Ah, et, c'est
et le storyboard aussi,
ah, oui.
D'ailleurs.
C'est prévu pour quand?
Je ne sais pas encore parce que je cherche un éditeur.
Ben, on lance un appel alors.
Donc voilà.
Bon, merci beaucoup Aurélie Villemay. Je rappelle le titre du livre, Épinette Noire, chez Super Loto Édition. Merci pour ce beau voyage Aurélie.
Merci à vous Fred.
Voilà, on espère vous avoir donné envie de découvrir les œuvres de cette autrice. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.